Bonsoir. Clôture la semaine dernière à Kinshasa de la conférence sur la croissance inclusive en RDC. Plus de 50 recommandations ont sanctionné les travaux de ces assises. Il s'agit notamment d'accorder un soutien aux petits agriculteurs pour diversifier l'économie congolaise. Quelle analyse faire de cette initiative dont l'objectif était de parvenir à une redistribution de la richesse nationale? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois Al Kitenge, analyste économique. Monsieur Kitenge, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Israël Moutala, journaliste, il est aussi analyste économique et politique. Bonsoir, Israël.
Bonsoir.
Honorable André Massoumbou, député national de l'opposition et membre du groupe parlementaire UDPS et allié à l'Assemblée nationale. Bonsoir, honorable.
Bonsoir.
Notez que tous nos efforts pour avoir dans cette émission un délégué de la primature sont restés vains. Entre-temps, à tous, merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Plus de 50 recommandations ont sanctionné les travaux de la conférence de haut niveau sur la croissance inclusive en RDC la semaine dernière. Toutes les recommandations vont dans le sens de trouver une issue à la redistribution de la richesse nationale selon les participants. Les détails avec vous, Daniel Tambinzoni.
La première session a tablé sur les ressources naturelles qui sous-tendent jusque-là l'économie nationale, la croissance et comment éviter que les richesses naturelles ne se transforment en malédiction. En plus des institutions fortes que doit se doter la RDC, la conférence recommande au gouvernement congolais
de restructurer les patrimoines de la Gécamines pour lutter contre les pertes de dividendes dues, entre autres, à la vente de ses actifs miniers, aux mauvaises pratiques comptables des entreprises minières, notamment par la sous-évaluation du chiffre d'affaires, poursuivre la stabilité du taux de change et de l'inflation à l'effet de préserver le pouvoir d'achat de la population.
Une autre session a porté sur la lutte contre la pauvreté et l'inclusion agricole. Elle vise à diversifier l'économie congolaise.
Étant donné les rôles majeurs que joue l'agriculture dans la réduction de la pauvreté, surtout dans les zones rurales, accorder un soutien institutionnalisé aux petits agriculteurs, assouplir la fiscalité agricole pour un meilleur attrait des investissements privés spécifiquement dans les chaînes de valeur ou les processus de transformation.
La redistribution de la richesse nationale passe aussi par le marché du travail. Et pour que le marché congolais de l'emploi réduise sensiblement le chômage et l'exclusion, les conférenciers proposent au gouvernement
d'investir de manière solide dans la formation technique et professionnelle et la santé pour augmenter la productivité du capital humain, d'investir davantage dans le secteur de l'énergie pour la promotion de l'industrie.
Les conférenciers ont dit avoir fait le travail qui leur a été demandé. Reste à présent que les politiques s'en approprient pour que la croissance économique devienne effectivement la croissance en termes de conditions de vie de la population.
Merci Daniel Tambinzoni. Al Kitenge, vous êtes analyste économique. Vous avez pris part à ce forum de haut niveau sur la croissance inclusive en RDC. Cette conférence était-elle opportune selon vous?
Merci beaucoup Alain. D'entrée de jeu, j'ai envie de dire deux choses importantes. La première, c'est qu'il faut reconnaître que nous avons là un dilemme d'un homme politique qui se trouve être le Premier ministre, à qui tout le monde reconnaît aujourd'hui le mérite d'avoir remis un minimum de discipline dans la gestion de l'État et donc d'avoir maîtrisé plus ou moins les paramètres macroéconomiques de notre pays. L'histoire nous dit beaucoup de choses là-dessus, mais surtout d'avoir mis au devant cette croissance économique contre laquelle déjà le chef de l'État disait qu'elle n'était pas porteuse de tous les avantages qu'on attendait d'elle, mais aussi les Congolais eux-mêmes qui disaient qu'on ne la ressentait pas dans la poche du plus démuni. Qu'à cela ne tienne, qu'il ait eu le courage d'organiser à son corps défendant une conférence de si haut niveau pour remettre en question un des grands acquis, un des grands atouts sur lequel il se basait pour vendre ses performances, je trouve que c'est un exercice d'une honnêteté intellectuelle remarquable. Deuxième chose, je voudrais dire que c'est une réponse scientifique que nous avions eue là, l'université de Harvard, qui était l'invité principal, l'université de Norvège, nous avions l'université d'Aix en province, nous avions beaucoup d'autres universités et des hommes des sciences du Congo et du monde entier qui étaient avec nous dans cette conférence. Je pense simplement que ce qu'ils ont fait, c'est un travail fondamental de comparaison international pour être en mesure de dégager un modèle qui pourrait servir à la République démocratique du Congo. Je pense que ce qu'ils ont fait est un travail du niveau scientifique. Après, il faut quand même que nous ayons un niveau de responsabilité technique. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où toutes ces matières nous ont été versées, les Congolais entre eux, toute tendance politique et non politique mises ensemble, nous devrons nous approprier cette matière première pour la convertir en véritable donnée de base pour être en mesure de sortir un plan de travail pour la République démocratique du Congo. La troisième des choses, c'est que à partir du moment où nous aurons le cahier de charge général acquis et admis par la masse congolaise intellectuelle, il faudra sortir de la part de la volonté politique un engagement pour que cela soit mis en pratique et que ça donne des résultats. Et moi, je pense simplement que c'était une chose extrêmement importante et c'est bien qu'on l'ait eu. Ça permet aux Congolais de se dire que ce que nous avons comme contrainte ici est une matière scientifique compréhensible par tout le monde et que nous ayons l'enrichissement des gens qui ont une expérience internationale pour l'avoir fait ailleurs était une chose, à mon avis, extrêmement importante.
Alors, qu'est-ce que vous répondez à tous ces observateurs qui pensent qu'on a suffisamment organisé de forums en RDC, que les recommandations, les résolutions sont connues, mais jamais appliqué?
D'abord, c'est faux parce que, vous savez, lorsque on parle d'une recherche, il s'agit d'une question scientifique. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, l'exercice que nous avons fait était un exercice intellectuel de très haut niveau qui consistait à nous soumettre au raisonnement des gens qui n'ont aucun intérêt politique, qui n'ont aucune influence politique locale et donc qui jouissaient d'une liberté très très large en matière de réflexion et de proposition. Et à mon avis, c'était quelque chose de très bien parce que ça permettait à tout le monde, au-delà du fait que l'on peut penser qu'on est de l'UDPS, qu'on est du PPRD, qu'on est de l'UNC, être en mesure de donner une contribution citoyenne à cette République qui en a plus que besoin.
Alors, pourquoi jusque-là, on n'est pas encore parvenu à une redistribution de la richesse nationale?
Pour deux bonnes raisons. La première, d'abord, c'est qu'il n'y en a pas assez pour qu'on en donne à tout le monde à la fois de la manière qu'il faut. Je voudrais savoir et faire dire à tout le monde ici que la seule manière de distribuer la richesse d'un pays, c'est le travail. La deuxième, c'est que l'élément porteur de la croissance de notre République, c'est le secteur minier. Et tout le monde sait très bien que le secteur minier est à usage intensif de capitaux, mais aussi très peu créateur d'emplois, parce que, bien entendu, très automatisé. Et aujourd'hui, les recommandations qui viennent sont tout à fait claires, c'est qu'il faut développer les autres secteurs, bien entendu, après avoir réussi à tirer le maximum et l'optimum que nous pouvons du secteur minier, il faut être en mesure de diversifier notre économie. Et de manière insolente, la réponse qui vient là-dessus, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens nécessaires pour être en mesure de faire cette diversification de manière continue. Je voudrais vous donner trois éléments importants. Le premier élément, c'est que nous avons une population qui meurt à 48 ans. L'espérance de vie dans ce pays est de 48 ans. Ça ne donne pas la chance à notre pays de s'organiser dans une structure de solidarité transgénérationnelle. La vérité, c'est que le système de santé est extrêmement défaillant, faute de moyens. Deuxième chose, 70% de notre population ne sait lire ni écrire correctement. Ça veut dire qu'en fait, au niveau de la compétitivité, nous sommes très très faibles. La troisième des choses, c'est que nous n'avons pas d'infrastructure de base structurante pour être en mesure de simuler une économie viable sur toute l'étendue de la République. La question qu'on se poserait aujourd'hui, c'est de savoir comment cela se fait. Il faut aller trouver la réponse dans notre histoire. Je voudrais vous rappeler un chiffre. Quand Mobutu s'en allait ici, le budget de l'État était de 350 millions de dollars. Juste une manière de vous poser la question de savoir comment on gérait ce pays. La vérité, c'est qu'on ne le gérait pas du tout. Merci. Et il est arrivé un grand accident, et je voudrais bien le souligner, il est très important. Il est arrivé en 2000, c'est l'arrivée du GSM, qui a popularisé la demande citoyenne en termes de biens et services consommés et fournis par l'État.
Israël Moutala, vous êtes journaliste, également analyste économique et politique. Pour vous, fallait-il organiser cette conférence de haut niveau?
Bon, j'ai assisté à la conférence. Il faut dire que j'ai vu des économistes de grande renommée internationale. J'ai vu même un économiste qui était prix Nobel. Bref, il y avait vraiment des intellectuels de haute facture. Je n'en disconviens pas. Mais je suis resté sur ma soif. Donc j'aimerais quand même rendre hommage aux intellectuels congolais parce que je suis quand même un observateur averti de la vie économique de notre pays. Je n'ai vu aucune mesure, aucune recommandation révolutionnaire. Tout ce qui a été dit à cette conférence, c'est ce que disent tous les économistes congolais. Quand vous allez à l'université de Kinshasa, vous lisez les ouvrages de Chunza, vous lisez Mabi, vous lisez Kabuya, vous lisez autant d'économistes, vous verrez que tout ce qui a été dit globalement, cette conférence l'a déjà été dit ici par les Congolais à la Conférence nationale souveraine et dans plusieurs ouvrages. Donc moi, j'ai parcouru les résolutions, amélioration de la gouvernance, restructuration de la GECAMINE, bref, toute cette litanie de recommandations. Aucune n'est révolutionnaire, aucune n'est spectaculaire, aucune n'est inédite.
Alors, quand vous parlez de recommandations révolutionnaires, qu'est-ce que vous auriez souhaité entendre?
Non, ça veut dire que, bon, enfin, moi je dis que les solutions sont congolaises. Nous connaissons les maux dont souffre notre économie. Nous savons tous, en tant que Congolais, que la stabilité du cadre macroéconomique n'est pas suffisante à elle toute seule. Nous savons que il faut accompagner la stabilité macroéconomique avec ce que les économistes appellent les déterminants. À essayer un peu justement de parler de ces déterminants économiques, quelques aspects comme l'éducation, à parler de notre aspect de ces déterminants économiques qui sont l'éducation. Mais la variable la plus importante pour booster l'économie d'un pays demeure l'investissement. Et donc tous ces économistes nous ont dit il faudrait que nous accroissions notre capacité d'endettement. Mais bon, pour accroître sa capacité d'endettement, il faut que la gouvernance financière soit impeccable. Matata a fourni d'immenses efforts. Mais je peux vous donner un petit exemple. L'État, ce n'est pas que le gouvernement. L'État, ce sont les entreprises publiques. L'État, ce sont tous les autres pouvoirs publics démembrés. Je suis par exemple, moi j'habite la commune de Lemba. Quel est le budget communal? Parce que l'État est un grand acteur économique. Quel est le budget de la commune de Lemba? Comment est-ce que moi, en tant qu'homme d'affaires, par exemple de Lemba, je peux me projeter dans l'avenir, sachant que la commune de Lemba va faire des travaux de rénovation, par exemple, va repeindre sa façade, va acheter du mobilier. Comment moi, je peux souscrire à un marché public, par exemple, que la commune de Lemba peut justement solliciter? Ce sont ces questions-là cruciales. Qui sont au cœur de la gouvernance, sachant que toute structure de l'État doit avoir un budget lisible pour que tous les hommes d'affaires s'y greffent. Et comme ça, on va créer des îlots de prospérité. Mais ça, ce n'est qu'un aspect. Il y a aussi des autres aspects que j'ai vus, parce que la grande question, la question fondamentale ici, était de savoir la redistribution. Al, à juste titre, a dit qu'il n'y en a pas suffisamment pour être distribué à tout le monde.
Le gros reste potentiel.
Oui, c'est vrai. Mais il y en a peu. Mais comment est-ce que ce peu-là est géré? On peut dire ici que le train de vie de l'État est indécent par rapport à la pauvreté ou à la richesse nationale. Donc je pense qu'il y a encore des efforts à fournir quant au train de vie de l'État. Si on vous dit que, par exemple, que plus de 60% du budget est englouti par le fonctionnement des institutions, c'est indécent. Et donc nous allons encore voir la problématique justement de la dilapidation des deniers publics avec la question du découpage territorial où on aura 26 provinces alors qu'avec les 11... Voilà, il y a toutes ces questions de gouvernance.
Et donc, en parlant du train de vie indécent, l'État, parmi les solutions, devrait commencer par réduire sensiblement son train de vie.
Absolument, absolument. Et donc, le train de vie de l'État est un moyen, justement, d'être en harmonie avec les citoyens, parce que les citoyens ne comprennent pas que eux, les citoyens lambda, qu'on leur demande à eux de serrer la ceinture, alors que au sommet de l'État, le train de vie est extrêmement élevé. Donc, le train de vie de nos institutions n'a rien d'enviable par rapport à celui de la France, alors que nous n'avons pas les mêmes niveaux de richesse.
Concrètement, Israël, ça passerait par exemple par la réduction des salaires des ministres, des députés,
effectifs, frais de fonctionnement, intrants de bureau, carburant, primes diverses, bref, le taux, bref, ça passe par tout ça. Il faut compresser les dépenses publiques et ça passe par le volet frais de fonctionnement, rémunération et tout ça. Il faut des réductions drastiques et juste se dire que quand nous serons à meilleure fortune, on va redistribuer. Mais la grande question aussi, comme on l'a dit ici, nous avons une économie justement mono-activité, ça veut dire que nous sommes hyper dépendants du secteur minier. Donc les experts nous ont dit il faut diversifier l'économie, il faut diversifier. Bon, c'est connu de tous qu'il faut diversifier l'économie. Comment diversifier l'économie, avec quels moyens diversifier l'économie? Ce sont les questions qui se posent à nous. Donc, on n'a pas besoin, franchement, que des gens quittent Harvard pour nous dire ici que non, diversifier. Non, c'est connu.
C'est déjà connu.
Et donc, c'est connu. Donc, appliquons d'abord toutes les résolutions pertinentes de nos intellectuels, de tous les forums économiques que nous avons organisés ici. Si nous appliquons, ne serait-ce qu'une partie de ces recommandations, nous serons déjà avancés.
Honorable Massoumbou André, vous êtes député national de l'opposition et membre du groupe parlementaire UDPC allié à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi Alki Tengue et Israël Moutala qui ont pris part à ce forum, à cette conférence de haut niveau. Comment vous, vous percevez l'organisation d'un tel forum?
Je vous remercie beaucoup, mais il est toujours évident que pour gérer un pays, une nation, il faut absolument réfléchir. Mais il faut que les réflexions se fassent sur base de réalité économique. On parle souvent de la croissance, mais si je peux placer une caméra pour voir qu'est-ce qui s'est passé entre 2012 et aujourd'hui, eh bien, nous allons pouvoir apprécier pour vérifier s'il y a eu une évolution du produit national brut du pays. C'est l'élément principal. Le deuxième, c'est de voir s'il y a des changements importantes dans la répartition des revenus. Et c'est ce qu'ils ont essayé de réfléchir. Et le troisième point, c'est pour voir s'il y a une poussée des grandes entreprises au sein de notre pays. Et la dernière réflexion que je ferai, c'est l'expression rapide de l'État. J'ai entendu Al citer quelques chiffres quand Mobutu partait. Il a laissé 350, mais je corrige en disant que Mobutu, quand il partait, il a laissé un budget de 800 millions, 850 millions, 900 millions. Et même en 1988, Mobutu a dû réaliser 1 milliard, à vérifier, 1,2 milliard de budget. Donc, il est évident que pour le moment, nous arrivons à 5 milliards de budget, mais sur ces 5 milliards-là, je parle de recettes courantes. Parce que sur les recettes tout à fait extérieures, le pays a prévu 1,5 milliard. Et sur le 1,5 milliard, aucune institution internationale, suivant total de ces institutions internationales, ne dépasse 350 millions de dollars. Je veux dire ici la Banque mondiale, la BAD, et les autres y compris. Et donc, je dirais, d'une manière tout à fait simple, que pour le moment, la richesse ne se manifeste pas. Parce que qui dit croissance, il faut voir comment la richesse se mesure. Et sur cette croissance de 9,6 que l'État a réalisée aujourd'hui, parce que j'ai suivi quand même cette conférence, ainsi que les termes que le gouvernement Matata est en train de pouvoir développer chaque fois qu'il vient au Parlement sur l'évolution des tendances, les éléments essentiels de notre économie. Je dois vous dire que sur cela, tout cela ne permet pas, un, le changement des vies au niveau des classes sociales. C'est-à-dire qu'au niveau prolétarien, on retrouve toujours les ouvriers qui ont pratiquement des salaires très bas et qui n'arrivent jamais à vivre décemment.
Et les députés comme vous, des salaires faramineux.
Ok, ça c'est, je vais parler. C'est-à-dire qu'il y a toujours des classes. C'est une lutte. Hein? Il y a, là vous m'amenez sur une théorie, parce que Adam Smith, qui est l'un des grands économistes du monde, dit ceci, que au niveau même des salaires, il faut faire un laisser-faire sur la croissance. Et Marx dit qu'il faut nécessairement lutter pour que les salaires des ouvriers puissent agir sur la croissance. C'est-à-dire que le petit ouvrier doit gagner suffisamment son revenu.
Alors, dans la pratique, honorable, êtes-vous par exemple d'accord qu'il faudrait réduire le train de vie de l'État?
Non, mais attends. La croissance, c'est quoi? Et il faut, quand il y a une richesse dans un pays, il est évident que quand la richesse est là, les gens doivent être bien payés. La croissance ne veut pas dire c'est uniquement au niveau de l'État. Non. Toutes les entreprises comprises. C'est-à-dire que l'État, le ménage et les entreprises, voire même les restes du monde. Et là, quand nous parlons, nous ne voyons que l'État. Mais attendez, on ne doit pas voir seulement l'État dans la croissance, dans la vie économique. Il y a les entreprises. Et si les entreprises font de la croissance, c'est-à-dire réalisent des bénéfices importants, Il faut absolument que dans ce bénéfice, ça ne reste pas seulement pour les investisseurs, les actionnaires, mais il faudrait qu'aussi les travailleurs se retrouvent dans ces revenus-là. Et la même chose au niveau de l'État. Donc, c'est la part que l'État prend. Il est évident qu'il faut faire l'autorégulation sur les salaires des gens. C'est-à-dire en commençant par celui qui a le salaire le plus élevé et voir celui qui a le salaire le plus bas. Et nous, au niveau de ces croissances-là, essayer de le répartir équitablement dans le pays.
Al-Kitenge, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Robert Baume de Bukavu au sud Kivu. C'est une très bonne chose de parler aujourd'hui de la croissance en RDC. Cependant, je me demande souvent qu'il faut au juste atteindre une croissance à combien de chiffres pour que celle-ci soit une croissance réellement inclusive et donc une croissance à l'avantage et à la portée de toutes les couches des populations congolaises et non seulement des oligarques ou d'une poignée de gens.
Al-Kitenge.
Merci beaucoup. Je vais en profiter pour d'abord un petit peu parler à l'honorable Massoumbou. Je suis un peu embarrassé parce que il parle de très bonne foi, mais il mélange plusieurs choses à la fois. Et à un moment donné, on perd un petit peu son message. Je voudrais simplement dire une chose. Les règles économiques sont très claires, elles sont immuables, elles sont universelles. Et les théories économiques peuvent varier en fonction du temps. Et c'est pour ça qu'il est important que nous, Congolais, nous soyons en mesure de générer une théorie économique qui réponde à nos véritables besoins. À un moment donné ou à un autre, nous avons une responsabilité. Nous ne pouvons pas sous-traiter notre intelligence ni notre conscience. Et donc, ça voudrait dire qu'à un moment donné ou à un autre, après avoir entendu les autres sur nos problèmes de manière libre, en dehors de toute pression et de toute couleur politique, c'est pour ça que je disais, le deuxième palier, c'est que nous, Congolais, nous disions, voilà ce que est la photographie que le monde entier fait de nous, comment nous faisons pour aller de l'autre côté. Par contre, je voudrais répondre à notre frère du Kivu qui vient de poser la question tout à l'heure. À quel niveau de croissance nous devons arriver pour être en mesure d'avoir une richesse partagée et qui touche tout le monde? La réponse est qu'il n'y en a pas une suffisante pour être en mesure de le faire. Je l'ai dit de manière assez claire et les constats sont insolents là-dessus. Il nous faut d'abord faire un bond qualitatif pour avoir une base suffisante pour être en mesure de faire une croissance continue économiquement viable. L'état actuel de la précarité de l'économie congolaise est assez choquant. Le responsable de la banque, du Fonds monétaire international est passé aux aveux. Il a dit exactement ceci. Comment voulez-vous qu'avec le budget que détient la République démocratique du Congo, on soit en mesure de le gérer? C'est exactement le même budget que le Congo en face pour 4 millions de personnes, pour un territoire qui est 4 fois plus petit que le nôtre. Chers amis, à un moment donné, à un autre, ces chiffres, vous les connaissez parce que la Fondation Entreprendre et le magazine Entreprendre ont produit ces chiffres. Nous avons bien dit de manière assez claire que si vous prenez le budget de la République démocratique du Congo, vous le divisez par le nombre de personnes, par le nombre de kilomètres carrés qui se trouvent être les défis d'un chef d'État et d'un chef de gouvernement, et vous faites la même chose avec le Congo-Brazzaville et l'Angola, nous sommes à 120 fois plus difficile que le Congo-Brazzaville, à 560 fois plus difficile que l'Angola. Ça veut dire qu'en fait, l'équation congolaise n'est pas une équation d'homme. Matata nous a démontré de manière assez claire qu'on peut être discipliné, qu'on peut supprimer l'hyperinflation, qu'on peut rentrer dans les normes.
C'est le cadre macroéconomique.
Mais au-delà de ça, il faut porter tout ça à l'échelle. Pour porter tout ça à l'échelle, il y a un grand besoin de financement et nous ne l'avons pas dans l'immédiat. Il faut sortir des sentiers battus pour aller chercher de l'argent pour combler trois déficits. Le premier, c'est le déficit de santé pour être en mesure d'avoir une espérance de vie supérieure à 65 ans, notre âge de retraite officiel. De l'argent pour être en mesure de former nos enfants pour qu'ils deviennent compétitifs et que le prochain esclavage ne soit pas l'esclavage de l'intelligence. Et le troisième besoin, c'est le besoin d'infrastructures structurantes pour que nous ayons une possibilité d'être productifs du point de vue économique. Je voudrais vous donner deux chiffres qui sont sortis dans cette conférence. Un intervenant a dit, et je crois qu'il vient des institutions internationales, il nous faut un minimum de 120 milliards de dollars pour avoir un minimum d'infrastructures viables. Et rien que pour le secteur de l'énergie, on a besoin de 60 milliards de dollars dans l'immédiat pour être en mesure de viabiliser nos besoins d'énergie pour l'industrie. Et donc, il faut être conscient de la réalité de notre pays. Nous sommes un pays extrêmement pauvre. Et les bonnes volontés des uns ou des autres ne changeront pas nécessairement la question. C'est pour ça qu'il faudrait que nous regardions les questions de manière très très froide.
Et donc, la maîtrise de la démographie également à Al-Kitenge reste une donne très importante.
Là-dessus, moi j'ai une théorie tout à fait différente. Il ne faut pas regarder le Congo avec une photo qui s'arrête aujourd'hui. Parce que nous avons un certain nombre de difficultés, nous commençons à arrêter les naissances. Avant de commencer à faire le contrôle de la démographie, il faudrait qu'on fasse l'évaluation et l'évolution de notre capacité à offrir des services de santé. Parce que la natalité va ensemble avec la mortalité. Si vous n'arrivez pas à arrêter la
mortalité. Dès que vous commencez à arrêter la natalité, vous vous retrouvez dans les dilemmes que ont aujourd'hui les pays occidentaux. C'est donc une question que nous devons être en mesure de regarder en interne. Et encore une fois, j'ai dit, si nous travaillons bien sur la santé, nous augmentons le niveau de vie des gens et nous augmentons l'espérance de vie, il devient possible de pouvoir être en mesure de commencer à réguler les naissances. Mais encore une fois, ce n'est pas ça notre première contrainte. Nous sommes sur un territoire de 2 345 000 km², qui est plus ou moins 5 fois la superficie de la France pour plus ou moins la même population.
Israël Moutala, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bandundu.
Docteur Nganto Bopato, à Bandunduville. Il y a déjà eu ce genre d'initiative dans les temps, et c'est sans suite car il va te poser un problème de choix des agriculteurs qui doivent bénéficier du financement. Le gouvernement doit mettre en place une politique agricole avec un système de crédit bancaire souple et d'accès facile et promouvoir des mutuelles et des coopératives des agriculteurs. Pour les restes, changer la politique salariale des fonctionnaires pour acheter les produits.
Là, on est au niveau de la diversification de l'agriculture. Vous en avez parlé dans votre précédente intervention. Il fait un certain nombre de propositions. Peuvent-elles tenir? Il parle par exemple d'une politique agricole, un système de crédit bancaire, coopérative agricole. Nous savons qu'en RDC, on a eu à un certain moment à faire ce genre d'expérience avec la banque de crédit agricole. On sait ce qu'elle est devenue.
Avant de répondre à cet auditeur qui est pertinent, j'aimerais revenir sur un point important sur lequel Al Kitege a insisté. C'est l'éducation. Nous parlons de la redistribution de la richesse. Mais redistribuer la richesse, ça ne veut pas dire que tu es chez toi à la maison et puis l'État vient distribuer l'argent. Non. Pour que tu bénéficies de la manne, il faut justement mettre la main à la pâte. Je donne un exemple. Les Chinois sont en train de construire des routes. Ça veut dire que vous pouvez avoir une ligne de crédit de 1 milliard de dollars pour construire des infrastructures. Mais cet argent ne sera pas ressenti de la même manière s'il était investi en France. Parce qu'en France, ce sera des entreprises françaises avec du personnel français qui récupéreront toute la manne. Ici, quand vous avez un financement de 1 milliard de dollars pour les infrastructures, ce sont des entreprises étrangères qui vont prendre ces capitaux, qui vont les réexpédier dans leur pays.
Et parfois même qui amènent des ouvriers étrangers.
Tout à fait. Mais ça vous montre, c'est le point sur lequel elle a insisté, l'éducation. Donc, il faut maintenant que vous ayez de la main d'œuvre compétente. Vous ayez des entreprises congolaises, du management congolais, justement, expédié dans tous les secteurs. Construction de barrages, construction de routes, conception, exécution des ouvrages publics. Alors, quand il n'y aura pas une intelligence stratégique sur là, pour avoir des compétences, afin que quand il y aura, vous aurez même quand vous aurez accru votre capacité d'endettement, que cette manne là-bas soit justement disséminée à travers le pays et que le Congolais en bénéficie. Ça sera très compliqué parce qu'on va recourir à de la main-d'œuvre, à de l'intelligence extérieure et nous allons perdre de l'argent. J'étais à Colouisie, il manquait de la main-d'œuvre pour des soudures de haute qualité en aluminium parce qu'il fallait construire une grande usine pour une grande société de raffinage de cuivre. Et donc on a importé de la main-d'œuvre malaisienne, on a importé de la main-d'œuvre singapourienne parce qu'au Congo, il n'y avait pas justement des soudeurs qui voilà tout ça. Voilà. Alors tout ça, ça montre qu'il y a du travail à faire sur le volet d'éducation. Alors pour revenir à l'agriculture, effectivement, je suis d'accord. Mais bon, Bukangalozo, tout le monde a crié que c'est un projet formidable. Mais bon, d'accord. Mais encore une fois, Bukangalozo, on a mis 80 millions de dollars, mais c'est l'argent qui allait dans les poches plutôt des Sud-Africains parce que l'expertise, le matériel, tout a été acheté chez les Sud-Africains et chez les Israéliens. Et donc, là aussi, il y a une étude stratégique. Comment faire en sorte que, si nous avons 80 millions de dollars, comment faire que ces 80 millions puissent bénéficier majoritairement aux Congolais? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Et donc, le modèle macro de Bukangalozo, je peux l'opposer, moi, à un modèle micro de 10 millions de dollars, par exemple, de Kitoko Food. Justement, une autre ferme ici, qui est aussi moderne. Donc, il y a moyen, justement, de voir quel type de ferme agricole adaptée à notre système économique. Parce qu'on a dit ici, justement, les théories économiques doivent s'adapter au temps et à l'espace. Donc, en Israël, par exemple, parce qu'ils ont réussi à fleurir le Negev, mais ils n'allaient pas y arriver avec un seul exploitant. Ils ont mutualisé les moyens de production. Parce que quand tu as un tracteur, la maintenance, le carburant, c'est plus cher. Mais quand vous mettez à 10 fermiers, vous avez avez deux tracteurs, vous supportez les charges, vous avancez. Donc, il faudrait que nos agriculteurs, ceux qui ont de l'expertise, se mettent ensemble, qu'ils mutualisent leurs moyens de production et ça va alléger la charge. Mais il faudra un encadrement de l'État, un encadrement technique, il faut le moniteur agricole, il faut un problème de les gens qui s'occupent des semences, mais il faut voir tous ces services-là, les semenciers, les gens qui savent fertiliser. C'est toute une chaîne pour faire de l'agriculture. Et un accompagnement justement aussi financier avec une banque de crédit agricole. Mais tout ça, qui met tout ça en musique? C'est l'État, encore une fois. Encore une fois, c'est l'État.
Honorable Massoumbou, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga.
Mazé Kisambika, je vous appelle à partir de Kananga. Je trouve que les recommandations qui ont servi de conclusion à ces assises s'avèrent indispensables et salutaires pour notre pays, la RDC. Apporter des soutiens, qu'ils soient financiers ou matériels, aux personnes œuvrant dans les secteurs d'agriculture, mais n'ayant pas la capacité d'autofinancer leurs activités, aidera ces derniers à les accompagner dans la poursuite d'objectifs de production de manière rationnelle et permettra le pays à maintenir la croissance et la relance économique ou la redistribution de richesses. Quand bien même le pays reste jusque-là inefficace sur le plan industriel qui est un moteur primordial de toute croissance économique.
Honorable, il faudrait diversifier l'économie congolaise en mettant l'accent sur l'agriculture. On se souvient qu'il y a pas très loin de 2015, on a distribué des tracteurs à certains particuliers. Qu'est-ce qu'il faudrait, par exemple, pour éviter ce genre d'erreur à l'avenir?
Je vous remercie. Je voudrais revenir quand même, avant de répondre à celui qui a posé la question, que au niveau de la manière de mesurer l'économie, le revenu de l'habitant, par habitant, pardon, on ne se base pas sur le budget national, mais on se base sur le produit intérieur brut. C'est le produit intérieur brut par rapport à la population. Or, ce produit intérieur brut ne vient pas tout simplement de l'État, mais ça vient de l'ensemble de l'économie. Alors, par rapport maintenant à la question de l'auditeur, il veut savoir qu'est-ce que l'État peut nécessairement mettre en place comme moyen pour permettre à ce que l'agriculture se développe. Je crois que c'est ça sa question fondamentale. Bon, et les amis co-débatteurs ont parlé plutôt des aspects sociaux, notamment sur le plan de l'éducation et de la santé, je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais par rapport à la réflexion qui a été faite par le gouvernement sur l'agriculture, comment redistribuer cette croissance au niveau des petites et moyennes entreprises, au niveau des paysans, tout ça, mais il faut regarder au niveau de la nation quel est le montant qu'on doit mettre à la disposition de cette population. Quel montant on va mettre à la disposition? Ils ont essayé de donner 5 millions de dollars à chaque province pour faire la campagne agricole. Et je crois que nous tous ici, nous l'avons suivi. Ils ont payé une première tranche, mais ils n'ont pas continué. Il y a un an, en 2013, ils ont payé 1 million à chaque province et ils devraient nécessairement, ce montant-là devrait servir de 60% pour l'agriculture et de 40% pour refaire les routes des dessertes agricoles. Ils n'ont pas pu. Alors maintenant qu'ils veulent nécessairement jouer sur cette croissance-là pour donner aux petites et moyennes entreprises, d'accord, aux petits paysans, ils vont les faire. Mais il n'y a pas de route. Les gens vont travailler à l'arrière-pays. Ils vont produire, mais ils ne seront pas écoulés, cette production, quand bien même l'argent était là, à leur disposition. Donc, pour moi, j'insiste que, bien qu'il y ait une croissance, bien qu'il y ait la répartition de revenus au niveau du secteur agricole, mais il faut d'abord commencer par refaire les routes des dessertes agricoles. Et de cette façon-là, quand le paysan aura de l'argent pour produire plus, cette production pourra arriver au niveau des centres et ça va diminuer les importations au niveau extérieur et ça va améliorer nos balances commerciales. au niveau de la Banque centrale. Et directement, ça va avoir un impact direct dans l'économie nationale et ça va tout de suite augmenter la croissance. Et comme je suis d'accord d'ailleurs avec Al Kitenge qui disait il n'y a pas un chiffre au niveau de la croissance qui peut dire que cette croissance-là peut permettre de faire, si vous voulez, de projeter un pays vers un développement.
Bwana Ngela Kokonyange nous écrit depuis Johannesburg en Afrique du Sud, dit « Avec l'initiative agricole pour relancer l'économie congolaise, il faut faire absolument recours aux étrangers pour moderniser les systèmes agricoles en RDC. » Honorable Masumbu.
Bien, écoutez, il est évident qu'au niveau des industries agricoles, on recourt toujours à l'extérieur. La RDC n'a pas des équipements et n'a pas des industries qui produisent des équipements qui peuvent permettre des tracteurs et tous les intrants nécessaires qu'on peut produire pour l'agriculture. La RDC n'en a pas. Tous nous recourons vers l'extérieur. Et c'est pourquoi que l'Afrique, en général, devrait nécessairement faire en sorte qu'un jour, nous arrivons à produire non seulement les produits de consommation, mais les produits d'équipement. Et c'est à ce moment-là que nous allons améliorer notre degré d'utilisation des capacités qui seront installées et nous allons tendre vers un développement. Mais tant que nous serons toujours extravertis sur les équipements, crois-moi, nous serons difficiles parce que nous ne maîtrisons pas, là je suis d'accord, nous ne maîtrisons pas parfois la technologie sur ces matériels et ces équipements-là. Voilà.
Al Kitenge, faudrait-il par exemple importer l'expertise en matière agricole, si on se souvient de l'expérience zimbabwéenne où les fermiers blancs ont quitté et sont allés par exemple en Namibie et dans les autres pays pour développer l'agriculture?
Ma réponse va vous surprendre. Même les États-Unis importent le savoir-faire. Aujourd'hui, tous les meilleurs informaticiens sont indiens. L'Allemagne, la France, les États-Unis, ils les importent. En fait, je pense que nous devrons être un pays intellectuellement métissé. Nous devons être en mesure de nous brasser avec les autres pour être en mesure de tirer le meilleur de leur efficacité. La réponse est que les 50 dernières années, ce qui correspond à presque notre indépendance, nos résultats sont médiocres. Et si vous désirez en sortir, la première des choses, c'est de regarder ceux qui réussissent, qu'est-ce qu'ils font. Aussi bien à côté de nous, ça veut dire des pays comme le Botswana, qui marche très bien, le Ghana et d'autres pays. Et puis, regardez beaucoup plus loin, avec beaucoup plus d'ambition, les modèles de société, comme les pays scandinaves et tous les autres pays. Je pense que nous n'avons pas de honte, à pouvoir reconnaître que notre niveau de performance interne ne nous donne pas les moyens de faire les choses tout seul, et donc pouvoir nous associer au meilleur du monde pour être en mesure d'avancer. Et tout le monde sait par exemple que quand vous voulez parler du riz, les Taïwanais sont parmi les meilleurs. Il faut aller les voir. Vous voulez parler de l'élevage, allez regarder ce que les Anglais font sur un territoire 10 fois plus petit que le Congo. Vous voulez parler des autres secteurs, allez regarder les meilleurs. Et je pense qu'il faut arrêter d'attendre qu'ils viennent, il faut aller les chercher. Je pense simplement que c'est une attitude courageuse qu'il faudrait que nous ayons.
Israël Moutala, je vais vous lire un extrait de l'exposé de Pourtier Roland qui dit, je cite, on ne peut mieux conclure qu'en martelant l'absolue priorité des infrastructures de transport et communication, condition première pour une croissance durable et une restauration des fondements territoriaux de l'État. Le diagnostic est facile à établir, le passage à l'acte impliquant des choix politiques et une gouvernance efficace, autrement difficile à accomplir, c'est les défis du Congo de demain. Fin de citation. Mais on a souvent l'impression que les priorités politiques ou politiciens priment plutôt sur le reste.
Oui, bien sûr. Parce que la question, par exemple, des infrastructures, écoutez, bon, n'importe qui sait qu'on ne peut pas se développer sans au préalable développer les infrastructures. Et donc, les infrastructures énergétiques, sans énergie, il ne peut pas y avoir industrialisation. Et donc, voilà, vous avez, par exemple, tout le centre, c'est un trou noir. Comment voulez-vous qu'une industrie s'y développe? Et donc, quand vous êtes responsable politique, la première mesure forte à prendre, quand vous, pour le Kassai, par exemple, c'est l'énergie et pour toute la RDC. Donc, voilà pourquoi je salue, justement, la rénovation de toutes les turbines à Inga 1, Inga 2, et ainsi que le grand projet de Inga 3. Et donc, il faut d'abord maîtriser l'énergie. la France a commencé d'abord son développement pendant les 30 glorieuses, c'était de maîtriser la question de l'énergie. Elle ne voulait pas justement dépendre justement des fluctuations de l'énergie fossile. Donc, elle a fait l'option stratégique de l'énergie atomique, mais elle a fait un mix énergétique. Donc ici, d'abord, la question infrastructurelle de l'énergie est capitale. Il faut qu'on la maîtrise. Donc pour parler d'émergence dans ce pays, il faut maîtriser cette question là-bas et y mettre des financements conséquents. On a tergiversé beaucoup cette question. L'autre question, c'est la question des infrastructures routières. Et donc moi je pense que dans toutes les voies de communication, ça veut dire route, rail. Et donc moi je comprends pas, par exemple, que nous n'arrivions pas justement à drainer toute la production minière vers le rail. Ça veut dire qu'avec le rail, on ressusciterait la SNCZ, la SNCC, et avec la SNCC, justement, c'est plusieurs provinces, quatre provinces, justement, qui vont sortir de la pauvreté. Vous avez la province du Katanga, le de Kasaï et le Maniema, parce que quand, si vous faites le rail, donc, c'est un moindre coût. Et je vois que les Angolais s'y mettent déjà. Et donc, mais là, on n'a pas les moyens. Il faut que l'État dise clairement qu'il n'a pas les moyens. Avec un budget en propre d'à peine 5 milliards, il n'y a pas le moyen. Donc, la solution passe par quoi? Par un partenariat public-privé. Et donc, ça passe par quoi? Par l'amélioration du climat des affaires. Ça passe par quoi? Par un jeu politique sain. Et tout ça, c'est des choses connues. Et donc, pour aller là-bas, où va-t-on trouver, par exemple, 100 milliards? Parce que le chiffre de 100 milliards avait été pour les infrastructures, minimum 100 milliards. Mais il faudrait maintenant, justement, on peut privatiser les autoroutes. L'État a été incapable. L'État nous avait promis ici que... Ça, c'est très important. Pour le cinquantenaire, pour le cinquantenaire de l'RDC, on va relier Banana à Kasumbalesi-Katanga en passant par tout ça, la nationale numéro 1. Nous sommes là, il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Mais il y a des grandes sociétés qui sont spécialisées dans les autoroutes. Ils vont mettre des péages et on va vite arriver à un développement assez harmonieux. Donc, ce sont les questions des infrastructures, c'est très important.
Honorable Massoumbou, le découpage, la décentralisation peut-elle favoriser le développement de la RDC dans cette optique?
Absolument. La décentralisation, c'est un facteur du développement. Mais maintenant, il y a des contraintes aussi dans cette décentralisation. Parce que vous avez vu dans la constitution de la République démocratique du Congo, nous avons prévu 25 provinces plus la ville de Kinshasa, 26. Eh bien, sur les 11 déjà qui existent, nous avons des problèmes pour pouvoir donner une impulsion économique de nos provinces. Nous voudrons encore en créer d'autres, c'est-à-dire qu'il faut des structures, des infrastructures pour que les différents gouverneurs qui seront dans ces provinces puissent nécessairement travailler correctement. Mais néanmoins, il faut dire que cette décentralisation, si ça peut se faire d'une manière progressive, c'est-à-dire en y allant, en voyant d'abord quelles sont les priorités qui peuvent être dans tel axe, dans telle partie du pays, et pouvoir créer ces provinces-là, ce serait alors, avec le temps, ça peut donner des effets positif sur le développement de notre pays. Parce qu'il faut le savoir, qu'il faut nécessairement rapprocher les décideurs par rapport à la population. Lorsque le décideur est éloigné, il ne sait pas se rendre compte de la réalité de ce qui se passe dans le pays ou dans une province donnée. Donc la décentralisation est un facteur de développement.
Alors en guise de conclusion, honorable, qu'est faut-il pour qu'on passe réellement des paroles aux actes?
Par rapport à la décentralisation.
Par rapport à l'émergence économique de la RDC, de façon générale d'ailleurs.
Bon, écoutez, nous avons, je crois qu'il y a un de mes débatteurs qui a dit qu'ici, que jusque-là, le budget est insuffisant. Et c'est vrai. Même le PIB. Comment voulez-vous comparer notre budget par rapport à un petit pays comme le Congo-Brazza, alors que nous avons 80 millions d'habitants? Ce qu'il faut faire, il faut absolument augmenter le revenu national.
Merci. Alki Tengue, comment prévoir la suite après une conférence de tel niveau?
D'abord, cette conférence a le mérite de nous avoir permis de changer de paradigme. Désormais, lorsqu'on regarde le Congo, il faut arrêter de le regarder en petit, il faut le regarder en grand. Il faut arrêter de le regarder de manière arrêter. Il faut arrêter de le regarder de manière arrêtée. Ça veut dire qu'il faut le regarder en dynamique, avec ambition. Ça sous-entend qu'en fait, il faut internationaliser la question du développement congolais parce qu'il nous manque deux choses fondamentales. Il nous manque des capitaux et il nous manque le savoir-faire. Et nous avons un objectif sur les 15 prochaines années, combler les déficits de santé, combler les déficits d'infrastructures et combler les déficits de compétences. Et si nous avons cette vision, il nous faut donc la chose dont je vous parle tous les jours ici, un plan national de développement.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Je rappelle qu'il n'a pas été possible d'avoir dans cette émission un délégué de la primature. Merci de votre attention et merci à toute l'équipe rédactionnelle de Dialogue entre Congolais. Retrouvez cette émission sur radiocapi.net. Au revoir.